L'être humain est en tension dynamique vers une fin et il rejoint cette fin grâce à son agir. Sur ce chemin, l'homme rencontre un obstacle, l'acédie. Frère Jean-Charles Naud, qu'est-ce que c'est que l'acédie ?
Alors l'acédie, c'est un phénomène complexe. C'est ainsi que l'appelle Évagre, le premier auteur à l'avoir systématisé de façon extraordinaire au IVe siècle. Évagre était un père du désert appartenant à la troisième génération de ces grands moines qui partaient vivre au désert pour rencontrer le Seigneur et entamer un combat spirituel. Et il avait compris que cette pensée mauvaise, cette maladie de l'âme, était un obstacle à notre rencontre personnelle avec Dieu.
Un obstacle sur un dynamisme, sur notre élan de vivre.
Oui, quand Évagre parle de l'acédie, il la considère comme un péché plutôt monastique à l'origine, un phénomène ayant une double dimension, une dimension spatiale et une dimension temporelle. Une dimension spatiale, le moine se sent à l'étroit dans sa petite cellule dans le désert, il a envie de voir d'autres horizons. Une dimension temporelle car au milieu de la journée, l'acédie est le traditionnel démon de midi, le moine a l'impression que le soleil n'en finit pas d'avancer, que la journée va avoir 50 heures, ce soleil au zénith ne bouge pas, il a l'impression que la vie ne terminera pas et à ce moment-là, il est pris d'un certain dégoût de vivre. Alors un peu plus tard dans l'histoire, l'auteur qui va sans doute en parler le mieux, c'est saint Thomas d'Aquin, qui lui va manifester aussi deux dimensions à ce péché d'acédie. La première dimension, c'est une dimension de tristesse, mais une tristesse bien particulière, une tristesse de Dieu. C'est-à-dire que ce qui fait notre joie la plus profonde, qui est notre appel à participer un jour à la vie même de Dieu, la vocation à la sainteté, on pourrait dire, précisément l'acédie nous fait le percevoir comme quelque chose de peu attirant. On en vient à s'attrister de ce pourquoi, en fait, on est fait, parce que la tension dynamique vers le Seigneur nous oblige de temps en temps à un certain nombre de renoncements à des biens qui, apparemment, sont plus immédiatement gratifiants. La deuxième dimension, qui me semble la plus importante, c'est ce qu'il appelle un dégoût de l'agir. C'est en fait une espèce de paralysie face à la tension dynamique qui nous pousse vers le Seigneur. Saint Thomas d'Aquin considère que notre vie entière est tendue vers un but qui est participer justement à la vie de Dieu. Lui, il le dira, voir Dieu.
C'est heureux les cœurs purs car ils verront Dieu.
Absolument. Et dans cette tension vers une finalité, saint Thomas d'Aquin nous dit ce qui nous pousse vers cette finalité, c'est notre agir, le plus quotidien, le plus petit. Parce qu'au cœur de cet agir, il y a quelqu'un, c'est l'Esprit-Saint qui, par sa grâce, par la charité, fait que chacun de nos actes peut rejoindre sa vraie finalité et nous ouvrir ainsi à une dimension plus surnaturelle, c'est-à-dire que désormais, dans notre agir, on rencontre déjà Dieu. D'une certaine façon, on anticipe déjà cette finalité totale qui sera notre participation à la vie de Dieu.
Alors, vous dites, c'est l'Esprit-Saint qui nous fait agir. Cela voudrait dire que si on est atteint de cette tristesse, l'Esprit-Saint ne nous habite plus ? Il est parti ?
L'acédie est un vice entre guillemets théologal, c'est-à-dire qu'il touche en nous ce qui nous lie à Dieu. Saint Thomas d'Aquin va même jusqu'à dire qu'on pourrait dire peut-être que l'acédie est le péché, le fameux péché contre l'Esprit-Saint, ce fameux péché qui n'a pas de rémission selon l'Évangile, qui est finalement pour toute la tradition le fait de désespérer de la miséricorde de Dieu. Saint Benoît, dans sa règle, nous propose des instruments des bonnes œuvres, c'est ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Eh bien, saint Thomas est dans la même ligne, c'est-à-dire que c'est un péché qui peut en engendrer d'autres. Le premier qui l'engendre, c'est le désespoir, ce péché qui nous fait douter de notre propre grandeur, qui nous fait douter de notre capacité à rejoindre véritablement Dieu. Alors saint Thomas d'Aquin nous dit, évidemment, vu la distance infinie qui sépare la nature divine de la nature de l'homme, comment est-il possible que l'homme, par ses propres forces, rejoigne cette participation à la vie de Dieu à laquelle il est appelé ? Et saint Thomas nous donne un remède extraordinaire. Il nous dit, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu lui-même s'est fait homme. Il nous a rejoints comme le pasteur qui vient chercher sa brebis là où elle est perdue.
Et qui la met sur, ses
épaules pour la ramener. Toute la tradition a vu cette parabole du berger qui vient chercher la brebis comme Dieu qui, en Jésus-Christ, vient revêtir sur ses épaules comme une brebis la nature humaine pour la ramener au troupeau qui est la vie même de Dieu.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'homme contemporain refuse de se laisser prendre par le Christ? Est-ce que l'on peut dire que l'ascédie aujourd'hui, c'est cette forme insinueuse de dépression, d'anesthésie, de dégoût un peu de toutes les choses?
Il y a trois phénomènes dont les manifestations sont parfois très semblables. L'ascédie, la nuit de la foi et la dépression. En fait, je pense qu'il y a une différence entre les trois. Pour ce qui est de la purification, ce qu'on appelait la nuit des sens, la nuit de la foi, la purification passive selon les auteurs spirituels, par exemple Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, on peut dire que ce phénomène où Dieu ne se manifeste plus sensiblement, où on n'a plus le goût d'être avec lui, dans le cas de la purification, c'est justement une purification de l'amour. La cédie, c'est, selon Évagre, une atonie de l'âme, c'est-à-dire une chute de tension de l'amour. C'est un péché contre l'amour.
On pourrait dire avoir envie de rester au lit.
Voilà, d'une certaine façon. Pour la dépression, c'est évidemment un phénomène qui est à l'origine. La vraie dépression, il y a un phénomène physiologique ou psychologique, donc disons pathologique, dont l'homme n'est pas responsable. Cependant, je suis persuadé qu'il y a un certain nombre de formes de dépression qui, étant pourtant apparemment des dépressions, sont en fait une certaine forme d'ascédie. C'est-à-dire qu'au fond de nous-mêmes, on en arrive à douter de l'amour de Dieu pour nous. On en arrive à ne plus voir le sens. Et c'est ici qu'il faut redécouvrir un certain nombre de choses toutes simples. Les larmes, c'est affirmer aux yeux de tous, ou au moins à soi-même, qu'on a besoin d'un sauveur qui vient nous tirer, que tout seul on ne peut pas y arriver. C'est aussi cette eau qui descend goutte après goutte sur la pierre de notre cœur et qui petit à petit réussit à la traverser pour faire que notre cœur de pierre devienne un cœur de chair.
Le problème, c'est qu'on n'est pas toujours conscient d'avoir ce cœur de pierre.
Alors Évagre nous donne d'autres remèdes. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme le Christ dans le désert, on va pouvoir, face aux suggestions mauvaises du démon, par exemple la dépréciation de soi.
Je suis nul.
Voilà, par exemple.
Je ne vaux rien.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. J'ai préparé pour toi quelque chose de grand. On lutte contre la pensée mauvaise grâce à la parole de Dieu qui vient nous reconstruire. Troisième chose, Évagre nous parle d'une alternance entre la prière et le travail. Faire que tout ce qu'on fait, on le fasse dans la lumière de Dieu. Les choses toutes simples.
Comme nous, dans notre travail
quotidien,
chaque jour.
Il y a une chose est de le faire sans Dieu, une autre chose est de le laisser profondément Dieu entrer, visiter toute cette vie quotidienne.
Lui ouvrir la porte.
Ouvrir la porte à l'Esprit Saint. Et puis, la persévérance, tenir bon. Quand on est dans le noir, dans un tunnel tout noir, eh bien, si on ne tient pas la rampe, il y a un moment, sans s'en rendre compte, on risque de tourner en rond.
On peut dire que tous ces remèdes, finalement, sont là pour nous faire entrer en communion.
Oui, nous faire entrer en communion avec le Seigneur et raviver en nous notre désir profond. Seigneur, je rechoisis ce lieu profond, c'est-à-dire ce désir que tu as mis en moi quand tu m'as appelé dans cette vocation bien précise.
Je me remets devant mon désir.
Je me remets devant mon désir. Je l'ouvre de nouveau à ta lumière pour que je puisse rechoisir, grâce à toi, ce pourquoi tu m'as fait. Sur ce chemin à nous, l'ascédie risque de nous le faire regretter. Alors, il faut le rechoisir. Jean-Paul II nous disait très bien que la question fondamentale de l'être humain n'est pas « que dois-je faire ?» mais fondamentalement « qui suis-je appelé à devenir ?» C'est fondamentalement laisser émerger en nous ce désir que Dieu a mis, qui est un désir de lui.
Ce que vous venez de dire a pour conséquence aussi d'entrer dans la joie.
Absolument. Je pense que la clé de tout, c'est la persévérance joyeuse. La joie nous fait nous ouvrir à un don plus grand, qui est le don de la vie de Dieu en nous. Petit à petit, on va se réaliser dans le don de nous-mêmes. La personne humaine, elle se réalise dans le don joyeux d'elle-même. Entrons dans ce chemin de disponibilité et de don de soi et nous allons découvrir la vraie joie.
Pour ce carême 2009, suite à tout ce que vous venez de nous dire, Qu'est-ce que vous dites à vos auditeurs ?
Je leur dis un petit mot de saint Benoît, qui, dans sa règle, au chapitre sur le carême, rappelle que c'est le temps du désir spirituel. Laissez émerger en nous ce désir de Dieu. Le carême, c'est le temps de la course vers le Seigneur, joyeuse et dynamique.